Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 24 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports, et comme chaque dimanche, focus sur le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. D'abord, les grands titres de ce dimanche 24 juillet. La politique de détention offshore de l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée génère toujours des coups après la fin de l'arrangement il y a 7 mois. Un Australien arrêté au Royaume-Uni dit qu'il est accusé d'une fausse alerte à la bombe envoyée à l'ambassade de Chine. En Australie, le ministère de l'Intérieur a confirmé à SBS News que le gouvernement fédéral finance toujours l'hébergement, la nourriture et les dépenses de 104 réfugiés et demandeurs d'asile en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 7 mois après que l'Australie a officiellement mis fin à son accord de traitement offshore avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le ministère a refusé de dire combien ou combien de temps encore va durer le financement. Le centre de détention australien sur l'île de Manus, qui abrite les demandeurs d'asile arrivés par bateau, a été jugé illégal et a été fermé par la Cour suprême de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2016. L'Iranien Maredad n'est pas classé comme réfugié et n'a ni droit de travail ni visa en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il déclare qu'il est difficile de faire face à un avenir incertain après des années de détention.
I treated like an animal. They torture us. They make us sick mentally, physically, everything. I just want to leave this country and go start my life. This is not a life they give it to us.
Le gouvernement fédéral a offert une assistance consulaire à un militant australien des droits de l'homme après son arrestation lors d'une manifestation devant l'ambassade de Chine en Grande-Bretagne. Drew Pavlou dit avoir été arrêté devant l'ambassade de Londres alors qu'il protestait contre le traitement réservé aux Ouïghours, aux Tibétains et aux Taïwanais. Après avoir tenté de coller sa main et le drapeau taïwanais aux portes de l'ambassade chinoise, le jeune homme de 23 ans a été arrêté par la police métropolitaine pour avoir prétendument menacé de bombarder le bâtiment.
Someone's created an email address, written "This is Drew Pavlou", and that's their evidence. Upon that evidence, they held me in a cell for 23 hours. I was held incommunicado for part of that time. Wasn't able to talk to lawyers. Wasn't able to talk to the consulate. My legal rights were breached. I was arrested and held in cuffs in a painful stress position. And then just simply ask, who has the motive to write a hoax email against Drew Pavlou to get him locked up? Well, you can clearly see all the people who are celebrating right now on Twitter that they're Chinese government supporters. So I've never been accused of anything this heinous. This is just the worst thing that's ever happened to me. Full stop. Someone's created an email address, written... This is.
Les responsables de soins aux personnes âgées appellent à une action urgente pour arrêter les effets du Covid-19 qui s'est maintenant propagé à plus de 1013 établissements de soins aux personnes âgées. Le nombre de cas dans le secteur est en hausse avec 6000 habitants et 3400 employés infectés par le coronavirus. Le directeur général par intérim de la Age and Community Care Providers Association, Paul Sadler, a déclaré que des mesures supplémentaires de soutien au personnel doivent être prolongés jusqu'en septembre pour faire face au nombre d'employés isolés dus au virus. Plus de 100 personnes sont décédées du Covid-19 dans toute l'Australie hier samedi, alors que les experts avertissent que la maladie est désormais en passe de dépasser les maladies cardiaques en tant que principale cause de décès dans le pays. C'est la première fois depuis janvier que les décès quotidiens dus au virus dépassent les 100 personnes, avec plus de 5000 personnes traitées par le Covid-19 dans les hôpitaux. Le virologue de l'université Griffith, le professeur Nigel McMillan, a averti que le nombre de décès ne ferait qu'augmenter à mesure que les cas augmentent.
So this year alone, we have had 8,885 deaths from COVID. We will crack 9,000 deaths this next week. And at the current rate we're going to be on track to have more than 16,000 deaths from COVID. And that would put it at the number one category of causes of death this year.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de monkeypox comme une urgence mondiale. La classification est l'alerte la plus élevée, alors que l'OMS peut émettre et fait suite à une augmentation mondiale du nombre de cas à 16 000 dans 75 pays. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a déclaré que les responsables essayaient de comprendre comment le virus s'est propagé si rapidement.
I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. There are now more than 16,000 reported cases from 75 countries and territories and 5 deaths. WHO's assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally and in all regions, except in the European region, where we assess the risk is high.
On écoute maintenant le reportage de Jérémy Lanche à Genève pour RFI.
Comme pour le Covid à ses débuts, on ne connaît pas bien la variole du singe. La différence, c'est que cette fois, le virus touche pour le moment, en tout cas, à plus de 98% des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Le risque, c'est donc qu'une grande partie de la population ne se sente pas concernée et que les gouvernements tardent à réagir, voire réagissent mal. Le directeur des opérations d'urgence à l'OMS, Mike Ryan.
Cette alerte doit être prise au sérieux. Il y a d'ailleurs un risque que le virus se transmette au sein d'autres groupes. On sait par exemple que cela arrive dans un contexte familial, donc il ne faut pas que cette alerte mondiale serve de prétexte pour imposer des mesures coercitives aux personnes concernées par l'épidémie ou des mesures qui menaceraient leur dignité.
L'avantage, parce qu'il y en a un, c'est que tant que la maladie touche surtout une catégorie de la population, il est plus facile de faire de la prévention et de lutter contre le virus avec des mesures ciblées. Des vaccins existent d'ailleurs, même s'ils sont encore disponibles en quantité limitée. L'OMS recommande aux personnes à risque de se faire vacciner. Cela comprend le personnel de santé susceptible d'être confronté à la maladie.
L'armée ukrainienne a déclaré que des missiles russes avaient frappé le port d'Odessa dans le sud du pays, menaçant la mise en œuvre d'un nouvel accord pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes vers les ports de la mer Noire. L'accord a été signé vendredi par la Russie et l'Ukraine avec l'appui des Nations Unies et la Turquie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'attaque montre que la Russie trouve des moyens d'éviter la mise en œuvre de l'accord. Martin Chaval, RFI.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a condamné sans équivoque ces attaques. Il a fermement rappelé que la mise en œuvre intégrale de l'accord par la Russie, l'Ukraine et la Turquie était impérative. La Turquie, elle, s'est dite inquiète. « Nous sommes perturbés, mais nous continuons à assumer nos responsabilités concernant cet accord », a fait savoir le représentant turc lors des négociations sur les céréales. Le ministre de la Défense turc a ensuite assuré que les frappes n'avaient pas entravé la capacité et le potentiel des docks. Moscou a de son côté tenté d'apaiser les tensions et a nié toute implication dans ces frappes. Ankara a affirmé que les Russes leur avaient certifié qu'ils examinaient la question de très près. Pas de quoi rassurer l'Union européenne qui condamne fermement l'attaque. Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, a pointé du doigt sur Twitter le mépris total de la Russie pour le droit international. Enfin, les États-Unis, qui avaient salué l'accord sur l'exportation de céréales avant de rapidement exprimer leur scepticisme quant au respect des engagements russes, l'ambassadrice américaine en Ukraine a appuyé sur l'idée que le Kremlin continue de militariser la nourriture.
Les pays africains, eux, espérer avant cette attaque une baisse des prix des céréales suite à cet accord. Claire Fage, RFI.
L'Afrique pouvait attendre de l'accord entre l'Ukraine et la Russie une baisse des cours mondiaux des céréales, en particulier du blé. Mais selon le spécialiste des matières premières, Philippe Chalmin, le bombardement d'Odessa remet en cause les espérances du continent.
L'impact direct pour l'Afrique, c'est au travers des prix. C'est vrai que s'il y avait eu un accord, les prix auraient eu assez logiquement tendance à baisser et que, à la suite du bombardement d'Odessa, le mouvement va en être enrayé. Ce n'est pas demain ni même après-demain que des céréales ukrainiennes vont pouvoir librement sortir par les ports ukrainiens.
Grâce à l'accord, l'embargo sur les engrais russes aurait dû être levé, ce qui aurait entraîné une baisse des prix des fertilisants, déjà très chers à cause de l'envolée des prix du gaz qui les compose. Il est urgent, souligne Philippe Chalmin, de mettre en place des routes alternatives terrestres pour les céréales et les engrais ukrainiens.
L'Afrique n'a pas grand chose quand même à espérer de tous ces mouvements diplomatiques, et il me semble qu'il vaudrait mieux qu'elle fasse pression sur l'Union européenne pour que celle-ci finance les capacités terrestres, notamment ferroviaires, pour sortir par terre les céréales ukrainiennes, les amener sur le Danube et pouvoir les exporter au départ des ports roumains ou bulgares.
Les États africains devront aussi, selon le chercheur, mettre en place des politiques agricoles réduisant leur dépendance alimentaire.
La candidate à la direction du Royaume-Uni, Liz Truss, a déclaré qu'elle ne tenait rien pour acquis lorsqu'on lui a demandé si elle était à l'aise d'être considérée comme la favorite à succéder Boris Johnson. Madame Truss s'est engagée à supprimer toutes les lois restantes de l'Union européenne qui, selon elle, renforceront l'économie britannique. Son rival, Rishi Sunak, a qualifié d'immoral le fait d'emprunter de l'argent du gouvernement pour financer les impôts. Madame Truss s'engage à réduire les impôts pour promouvoir le statu quo et renforcer l'économie dans ce qu'elle décrit comme une période de crise.
I think it is wrong to be taking money from people that we don't need to take when people across the country are struggling with the cost of living crisis. We know fuel bills are higher, we know that food bills are higher, and what my changes would do is help people with the cost of living, but also drive growth in the economy that's going to lead to higher tax revenues so we can pay back that debt.
Le pape François arrive au Canada pour une visite exceptionnelle, comme l'explique Charlotte de Rouen pour RFI.
Le pape François arrive ce dimanche au Canada pour une visite qualifiée de pèlerinage pénitentiel auprès des populations autochtones. Début avril, François avait demandé pardon pour la première fois pour la responsabilité de l'Église catholique dans les mauvais traitements et les décès de nombreux enfants autochtones dans des pensionnats gérés en majorité par des congrégations catholiques jusqu'en 1996. Il avait alors reçu à Rome des délégations autochtones. Cette fois, il fait le voyage sur place, malgré ses problèmes de santé, signe de l'importance de ce dossier, comme l'explique Marie-Pierre Bousquet, professeure en anthropologie, directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal.
Elle est très importante parce qu'elle s'inscrit dans le processus de guérison et de réconciliation des autochtones au sujet de l'histoire des pensionnats, non seulement avec l'Église catholique, mais vraiment avec cette partie de leur histoire. Les premières excuses qui ont été présentées par le pape ont été en terre vaticane, et là, il est important que ça se passe sur le territoire canadien. C'est symboliquement extrêmement fort. La majorité des enfants qui sont morts dans les pensionnats sont morts de maladies épidémiques. Ça ne rend pas le processus moins affreux, hein. La moyenne est de plus de 20% des enfants qui meurent. Dans un des pensionnats, il y a jusqu'à 69% des enfants qui mouraient. Les pensionnats n'ont fermé qu'en 1996. Plein de gens se posent la question de qu'est-ce qui va se passer. Ça va être surtout ce qui va se passer dans le cœur des survivants. C'est ça qui est le plus important. Et ce qui va se passer aussi comme prise de conscience, continuation de la sensibilisation pour le reste des citoyens. Je pense que cette visite, qui est quand même la visite d'un chef d'État officiel, même si c'est le chef d'État de nous dire, ça va continuer tout ce processus-là.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 16 degrés. Adélaïde, 20 degrés. Melbourne, 18. Hobart, 15. Canberra, 16. Sydney, 18. Brisbane, 22. Darwin, 29. Et à Alice Springs, maximal de 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce 24 juillet, la politique de détention offshore de l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée génère toujours des coups après la fin de l'arrangement il y a 7 mois. Plus de 100 personnes sont décédées du Covid-19 hier pour seulement la journée de samedi en Australie. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Tour de France, la 20e étape hier, remportée par Wout van Aert. Troisième victoire d'étape pour ce monsieur. Jonas Vingegaard garde le maillot jaune. On l'écoute.
Yeah, I think I also almost had a heart attack when that happened. I had the feeling I was not really taking big risks. And I think I just made a mistake going into the corner. I mean, I knew from last year that I had the level to compete for the victory, but then still to make it is something different, and it's just been really incredible. I always believed that I had a chance of winning the Tour de France, but now to actually do it is it's really incredible.
Et maintenant le décryptage de la 20e étape avec Cédric de Oliveira et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Jonas Vingegaard vinder årets Tour de France, med mindre han styrter i morgen, det ved jeg godt, men Jonas Vingegaard ind i anden bedste side. Det kan godt være.
L'homme que vous entendez derrière moi s'appelle Tobias Hansen. C'est un Danois journaliste, commentateur pour la radio nationale et c'est un des voisins de tribune de Thomas de Saint-Léger sur le Tour de France. Thomas, que l'on rejoint tout de suite dans Mondial Sport. Alors, on n'a pas tout compris, mais on sent l'émotion dans la voix de votre camarade de route et pour cause. Ça y est, c'est fait. Avant la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, demain, Jonas Vingegaard est assuré de remporter le Tour de France.
Et oui, il devait simplement gérer son avance confortable sur Tadej Pogacar. 3 minutes 26 avant le contre-la-montre de 40 km aujourd'hui jusqu'à Rocamadour. Et il a fait tout le contraire, le Danois au sang-froid, transformé en tête brûlée au contact de son rival slovène Pogacar. Il a même failli tomber et tout perdre à 2 km de l'arrivée. Finalement, il termine quand même deuxième de ce contre-la-montre derrière son coéquipier, le tout-terrain, le bulldozer belge, Wout van Aert.
Et encore impressionnant. Vingegaard devient le deuxième Danois sacré sur la grande boucle, 26 ans après Bjarne Norris.
Et oui, il n'était pas né à l'époque, Vingegaard qui, gamin, grimpait les cols des Alpes quand il était en vacances avec ses parents. Sa carrière professionnelle ensuite n'a pas toujours été linéaire. Il a été un moment ouvrier dans une usine de poissons. Tout s'est accéléré en fait quand il a rejoint l'équipe Jumbo-Visma en 2019. Il se révèle au grand public l'an dernier seulement, deuxième du Tour de France derrière Tadej Pogacar. Les rôles et les positions sont inversés cette année et c'est bien sûr une consécration pour lui.
C'est incroyable. J'ai vraiment du mal à trouver les mots. C'est la plus grande victoire possible dans le cyclisme et je l'ai fait. C'était possible, je le savais depuis l'année dernière. Et maintenant, c'est pour nous, pour cette équipe incroyable. Ça montre à quel point on est proches les uns des autres, ce petit truc en plus que nous avons. On est toujours content quand l'un de nous gagne. Je suis vraiment heureux pour Wout aujourd'hui. Ces gars sont vraiment des amis, je dirais même des frères.
La conclusion de cette 109e grande boucle, c'est ce dimanche, 115,6 km entre Paris, La Défense Arena et les Champs-Élysées. Et maintenant, je vous propose la carte postale de cette 20e étape avec Alexis Bédu pour RFI.
Et si vous ne la connaissez pas, le Tour s'en chargera. Le vélo s'invite sur cette terre de rugby. Clément Dupont est agriculteur, mais aussi frère d'Antoine, le demi de mêlée du 15 de France, l'enfant du pays.
C'est complètement inédit. Et je me souviens quand on était petit, il y avait souvent des passages. Mais de là à être un village départ, donc sur l'instant, l'année dernière, on s'était dit, bon, c'est une erreur, ils y ont pensé. Mais finalement, au fil des mois, ça s'est dessiné. Donc, et voilà, on est très très heureux. Ouais.
Pour accueillir le Tour, Castelnau-Magnouac a pu bénéficier de la notoriété de sa star, Antoine Dupont, et il a fallu trouver l'argent. Cela coûte 80 000 euros pour être village départ. Le maire Bernard Verdier.
C'est un formidable coup de projecteur au niveau de l'Hexagone, mais aussi avec, je dirais, toutes les chaînes de télé qui retransmettent sur tout le monde entier.
Le paisible village se transforme pour une journée en foire géante entre coureurs, stands gastronomiques et invités de marque. Quelques heures de fête pour cet habitant.
Mais ce qu'on espère, c'est que les gens vont apprécier ce petit coin de France. On est au calme, on est en contact avec la nature et ça fait énormément de bien de se ressourcer. Venez, on vous accueillera et on échangera avec nos qualités, avec nos défauts aussi, et puis on chantera ensemble.
Pour rappel, le Tour féminin démarre ce dimanche, comme nous l'explique Christophe Diremzian pour RFI.
C'est à elle de se mettre dans la lumière, celle des projecteurs pour un trombinoscope avant l'entrée en scène au cœur de la capitale. 144 privilégiés conscientes de faire l'histoire, un tour femme par les mêmes organisateurs que le tour homme. Une juste reconnaissance pour Audrey Cordon-Ringaud, championne de France sur route et du contre-la-montre.
C'est un des plus beaux événements aussi pour le sport mondial. Qu'il soit décliné au féminin, je pense que c'est la moindre des choses après tant de discussions, après tant de preuves qu'on a pu donner aussi ces dernières années que voilà, on est capable de faire aussi bien que les garçons. On en avait besoin pour passer aussi l'étape suivante finalement de la progression du cyclisme féminin. On a bien fait d'attendre parce qu'aujourd'hui je suis ravie de vous voir tout cela et de voir l'engouement qu'il y a autour de la course.
Dernière réincarnation en date de précédentes compétitions des années 80 et 90, arrêtée faute de rentabilité. Ce tour symbolise la transformation du cyclisme féminin doté depuis deux ans d'un vrai circuit professionnel mondial avec 14 équipes, souvent adossées aux structures masculines, qui y mettent de plus en plus de moyens. Exemple avec la FDJ et son budget de 3 millions d'euros pour la formation féminine, de mieux en mieux équipée, se réjouit la jeune Marie Lenette.
Ne serait-ce que cette année, en une année, on a eu deux motorooms, on a eu un food truck, enfin l'équipe elle a grandi de ouf, les résultats ils sont beaucoup plus importants que l'année dernière et encore plus que l'année d'avant et on prend une ampleur. S'il n'y a même pas de mots pour la décrire, c'est juste incroyable.
Mais la véritable avancée est le versement d'un salaire minimum aux coureuses de l'élite, 27 500 euros par an. Adieu les emplois à mi-temps ou les coups de pouce des parents, du moins pour les équipes de première division comme DSM, formation néerlandaise emmenée par la française Juliette Labousse.
Il y a encore beaucoup de disparités dans les équipes, par exemple les équipes continentales. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de filles qui ont du mal à en vivre. Le Tour de France, ça va apporter quelque chose en plus et ramener forcément plus de budget dans les équipes. Et voilà, ce qui manque pour l'instant, c'est la professionnalisation des équipes continentales, donc je pense que ça sera les prochaines étapes à suivre.
L'exposition médiatique apportée par le Tour de France Femmes devrait aider à faire venir plus d'argent, mais du haut de ses 32 ans, Audrey Cordon-Ringaud apprécie tout de même le chemin déjà parcouru.
On a une grosse génération de jeunes qui connaissent ce nouveau cyclisme féminin, plus professionnel, avec plus de moyens. Moi je sais que oui, j'ai vécu les années compliquées, difficiles, même si j'ai quelque part fait les bons choix tout au long de ma carrière et que je suis moins à plaindre que d'autres qui ont dû arrêter le vélo à cause de ça. Je sais ce que c'est que de se changer au cul de la voiture et je sais aujourd'hui profiter de ce que j'ai et de ce qu'on nous donne. Et ça, je pense que c'est une chance aussi de savoir d'où je viens et de pouvoir profiter un maximum maintenant.
Tunique bleu blanc rouge sur les épaules, la Bretonne n'hésitera pas à essayer aussi le maillot jaune durant cette semaine où la totalité des 20 meilleurs mondiaux se disputeront une victoire à 50 000 euros, une prime 10 fois inférieure à celle des hommes.
Et le tour féminin, ce sera en direct sur la télé SBS à partir de ce dimanche soir. On passe au foot, l'Euro de foot féminin avec les quarts de finale. Hier, les Françaises, les Bleues, ont battu les Néerlandaises 1-0 après prolongation. Martin Guez et Cédric De Oliveira pour RFI.
Cette qualification historique, Martin, ça a été dur, mais c'est passé pour cette équipe de France, une équipe qui donc s'est qualifiée face aux Pays-Bas.
Exactement, une qualification historique, vous l'avez dit. Elles n'ont pas gagné l'Euro, mais c'est tout comme quand on a vu les scènes de joie à la fin de la rencontre. Elles n'entendaient que ça, elles ne s'étaient jamais qualifiées pour une demi-finale d'un Euro. Les Françaises, elles ont couru dans tous les sens, se sont sautées dessus, se prennent encore dans les bras et font des dizaines de photos là depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on voit Selma Bacha qui repart avec le trophée de femme du match, joueuse de la rencontre, elle qui a fait une entrée tonitruante dans cette rencontre. Mais ce n'est pas elle qui a marqué, c'est plutôt F. Périssé, l'arrière droit, voilà, qu'on n'attendait pas forcément. Celle qui s'est avancée pour prendre le ballon à la 100e minute, lorsque l'arbitre a indiqué le point de pénalty après une faute sur Khadidia Toudiani. C'est elle qui a pris le ballon et non Wendy Renard qu'on attendait. Elle a bien croisé son pénalty, F. Périssé. Elle a marqué le seul but du match, 1-0 pour la France, qui a enfin réussi à dompter, à tromper l'incroyable Van Domselaar, la gardienne néerlandaise. Rendez-vous compte, 32 frappes pour les Françaises dans cette rencontre, 11 arrêts pour la gardienne de 22 ans qui n'était pas titulaire en début de rencontre. En début de tournoi, elle a profité des blessures, elle avait tout arrêté sur son passage, notamment une tête en pleine lucarne de Wendy Renard en toute fin du temps réglementaire. Mais cette fois-ci, elle n'a rien pu faire face à Périssé. À noter aussi que Delphine Cascarino, par exemple, a trouvé le poteau, que deux énormes immanquables ont eu lieu en première période. Voilà, elles ont beaucoup tenté, mais ça a fini par passer. Elles n'auront pas de regrets cette fois-ci, les Françaises.
La bonne formule, Martin, finalement, cette année, enfin, donc une demi-finale pour une équipe sans star, mais particulièrement solidaire.
Exactement, on ne saurait pas vraiment quelle joueuse ressortir. Je vous l'ai dit, c'est Selma Bacha, la joueuse lyonnaise, qui est repartie avec le trophée de joueuse du match, mais ça aurait pu être à peu près toutes les joueuses. On pense peut-être à Delphine Cascarino qui a bien dynamité son côté gauche. Elle a trouvé sur son chemin la gardienne Van Domselaar ou le poteau, mais voilà, c'est venu d'un petit peu partout le danger aujourd'hui. On a senti surtout une équipe groupée, solidaire, qui s'est battue tout le long face à des Néerlandaises très très rugueuses qui finalement n'ont pas montré grand chose dans cette rencontre.
L'affiche des demi-finales, France-Allemagne, Angleterre contre la Suède. Pour rappel, en quart de finale, l'Angleterre avait battu l'Espagne 2-1 après prolongation. Jeudi, l'Allemagne s'est imposée contre l'Autriche 2-0. Et vendredi, la Suède a battu la Belgique 1-0. On passe au foot, la CAN féminine au Maroc avec la finale Afrique du Sud et Maroc hier samedi, qui s'est soldée par la victoire des Sud-Africaines contre les Marocaines, 2-1. On passe à un match amical intersaison avec le Paris Saint-Germain qui a battu Urawa Red Diamonds, le club japonais, 3-0. Le Sénégalais Sadio Mané a été élu joueur africain de l'année. Chez les femmes, c'est la Nigériane Assissat Osho-Alla qui a été récompensée. On passe au tennis avec la finale de Stade qui se jouera ce dimanche entre Berrettini, l'Italien, et Ruud, le Norvégien. À Hambourg, Alcaraz, l'Espagnol, va jouer en finale contre l'Italien Musetti. Bernarda Pera, l'Américaine, a gagné la finale de Hambourg chez les dames contre Annette Kontaveit, l'Estonienne, hier, en deux manches, 6-2 et 6-4. Et à Palerme, ce dimanche, la finale, ce sera entre l'Espagnol Soribes Tormo et Bronzetti, l'Italienne. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Voilà, 13h et bientôt 33 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et dans 36 secondes, on passe au personnage de la semaine. Et ce sera Mario Draghi et sa démission comme Premier ministre italien. Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo.
Bonjour, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, vous allez revenir sur une actualité qui a secoué l'Europe et l'Italie, la démission du Premier ministre italien Mario Draghi.
Oui, lors de son arrivée à la tête du Conseil des ministres en 2021, il était vu comme le sauveur, celui qui allait sortir l'Italie de sa crise politique et économique. Eh bien, cette semaine, Mario Draghi, Super Mario, comme il était fréquemment surnommé dans la presse, a une nouvelle fois présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République Sergio Mattarella. Une nouvelle fois, car il l'avait déjà fait le 14 juillet dernier, mais le président avait refusé sa première démission. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mario Draghi a bien démissionné. Le président Mattarella a annoncé dans la foulée la dissolution du Sénat et de la Chambre des députés et des élections législatives anticipées auront lieu le 25 septembre prochain.
Mais pourquoi Mario Draghi a-t-il décidé de démissionner ?
Eh bien parce que l'Italie traverse une importante crise politique. Lorsqu'il est arrivé au gouvernement en février 2021, Mario Draghi a pris la tête d'une coalition gouvernementale de partis italiens de divers horizons. Il était jusqu'alors considéré presque à l'unanimité comme le seul capable de redresser la barre dans le pays. Mais le 14 juillet dernier, lors du vote d'un texte vu comme un vote de confiance pour le gouvernement, le mouvement 5 étoiles de l'ancien Premier ministre Giuseppe Conte, l'un des principaux partis politiques formant la coalition et qui est en pleine crise, a refusé de voter et donc de renouveler sa confiance en Mario Draghi. Ce dernier a donc remis immédiatement sa première démission au président, qu'il a lui refusé. Mario Draghi a donc poursuivi sa mission quelques jours, mais a soumis son gouvernement à un nouveau vote de confiance ce mercredi 20 juillet, qu'il a obtenu. Seulement voilà, trois partis importants, les formations de droite et d'extrême droite, Forza Italia et La Ligue, ainsi que les populistes du mouvement 5 étoiles, n'ont pas pris part au vote. Mario Draghi a donc insisté et remis une deuxième fois sa démission au président italien.
Qu'est-ce qui avait mené Mario Draghi à la tête du gouvernement italien en 2021 ?
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut revenir sur ce qui confère à Mario Draghi son image de potentiel sauveur de l'Italie à l'époque. Mario Draghi, c'est l'ex-chef de la Banque Centrale Européenne, celui à qui on crédite souvent le sauvetage de la zone euro en 2012, alors secoué par la crise de la dette. C'est un spécialiste de l'économie, diplômé du prestigieux MIT aux États-Unis, professeur d'économie dans plusieurs universités italiennes, représentant de l'Italie à la Banque mondiale pendant de longues années, directeur général du Trésor italien sous différents gouvernements également. Il a aussi été vice-président de la banque américaine Goldman Sachs de 2002 à 2005. Un homme d'expérience donc dans l'économie et les banques à qui on fait appel quand les choses vont plutôt mal. Alors début 2021, en pleine crise économique et sanitaire, alors que le premier ministre de l'époque, Giuseppe Conte, peine à ressouder la coalition gouvernementale, le président charge Mario Draghi de former un nouveau gouvernement, une initiative qui sera soutenue par la majorité parlementaire.
Qu'a fait Mario Draghi depuis son arrivée à la tête du Conseil des ministres italien ?
Eh bien, il a tenté de remettre sur pied l'économie italienne, le tout en pleine pandémie, et c'est pas une mince affaire. L'Italie est encore vue aujourd'hui comme un pays malade de l'Europe, et malgré le lancement de nombreux chantiers pour moderniser l'administration, la justice entre autres, d'autres dossiers comme la retraite, l'instauration du revenu universel et d'un salaire minimum sont, eux, pour l'heure, suspendus avec cette démission de Mario Draghi. Sous Mario Draghi, le pays a pu bénéficier tout de même des fonds du plan de relance européen et le pays a vu son taux de chômage diminuer.
Et quelles sont les conséquences que peut causer la démission de Mario Draghi ?
D'abord, en Italie, une instabilité politique. Le gouvernement reste pour l'instant en place pour la gestion des affaires courantes, mais la clé de l'avenir du pays, ce sera les élections législatives en septembre, pour lesquelles une coalition entre droite et extrême droite fait figure de favori. Vu de l'Union européenne, la crise italienne inquiète, notamment puisque des anti-Europe pourraient accéder au gouvernement italien en septembre, mais aussi parce que l'économie du pays continue d'inquiéter. L'Italie est très dépendante notamment du gaz russe et est frappée de plein fouet par l'inflation. On craint aussi que la crise politique en Italie ne vienne perturber l'organisation de la réponse européenne face à la Russie. La situation est donc suivie de très très près par les pays voisins de l'Italie et plus largement par l'Union européenne, donc, mais aussi par les États-Unis.
Merci Léo d'être revenu sur la démission de Mario Draghi et sur les raisons d'une inquiétude croissante sur la situation en Italie. Et dans 36 secondes, un petit détour par Adélaïde.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Le plaisir d'avoir Raphaël Delaunay, qui est la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue, Raphaël.
Merci Jean-Noël, bonjour et bonjour à toutes vos auditrices et tous vos auditeurs.
On va profiter de l'occasion pour parler de ce festival d'hiver qui a lieu en ce moment chez vous, Illuminate Adélaïde.
Exactement, puisque le South Australia est réputé pour être le Festival State, qui effectivement est très réputé au mois de mars avec énormément de choses qui se passent, mais en fait il y a des festivals à peu près toute l'année. Il en manquait peut-être un en hiver, qui est chose corrigée, je dirais maintenant, avec le festival Illuminate, qui a été lancé pour la première fois l'année dernière, mais qui a eu quelques soubresauts, notamment du fait de phase de confinement. Donc c'est un très beau lancement pour cette année, avec des célébrations tout autour de la ville, autour des lumières, des technologies, de l'innovation, de la musique, des arts, des performances, beaucoup de choses qui vont se passer. Et peut-être effectivement une performance en particulier, enfin une installation en l'occurrence, par un artiste français qui est Jacques Rival, qui sera sur les pelouses devant l'université d'Adélaïde et dont le principe est une boule à neige géante. Qui va venir encapsuler, entre guillemets, une statue qui est sur ses pelouses devant l'université d'Adélaïde. Voilà, c'est une invitation à repenser nos espaces urbains. Jacques Rival est à l'origine un architecte qui s'investit énormément sur la place des arts dans le paysage urbain et comment favoriser les interactions entre le public et tous ces espaces qui nous sont proposés. Et donc, cette installation vient vraiment dans cette démarche-là. Et voilà, je vous invite vraiment dans vos déambulations autour d'Adélaïde à venir observer cette œuvre. C'est en accès gratuit, c'est vraiment l'une des principales installations, notamment dans la programmation gratuite du festival Illuminate.
On revient sur les activités régulières de l'Alliance française d'Adélaïde chez vous. Est-ce que la série des conférences continue dans les mois à venir?
Alors, toujours, on a toujours ce principe d'avoir des séries de conférences chaque trimestre. On partira sur des conférences histoire avec le professeur Romain Fati, qui est enseignant-chercheur à l'université de Flinders, et Claire Rioux, qui est chercheuse également en histoire. Et ensemble, ils vont aborder la période de l'Empire. En France. Donc voilà, on a été juste avant sur la Révolution française, justement. Donc on continue à remonter, revenir vers le présent et à parcourir l'histoire française avec eux, leur talent de raconteur et de vulgarisation de l'ensemble de cette science.
Et sinon, j'imagine que les activités régulières se poursuivent. Je pense au ciné-club, le book-club, les déjeuners-conversations, les ateliers-conversations, dégustation plutôt.
Effectivement, donc tous ces événements-là sont des événements réguliers que vous retrouvez de toute façon tous les trimestres, les déjeuners-conversations, tous les mercredis après-midi, tous les mercredis midi, pardon, sauf vacances scolaires, donc club de lecture une fois par mois. J'invite notamment tous vos auditeurs à venir visiter la médiathèque de l'Alliance française qui a été profondément rénovée dans tous ses aspects, sur toutes ses sections, enfants et adultes, avec les dernières nouveautés des concours, des prix littéraires, avec des livres qui ont été adaptés au cinéma, projetés dans le cadre du French Film Festival, et que les gens, enfin, que nos membres vont pouvoir découvrir au travers de la lecture et voir quel est le type de travail qui peut être fait dans ce passage de l'écriture à l'image. On a également des livres pour adultes, mais de petits niveaux, donc niveau débutant et intermédiaire. La plupart des livres, effectivement, demandent une bonne maîtrise de la langue française. On souhaite, dans notre approche, que la langue soit, enfin, les livres soient accessibles à tous. Et, donc, on a fait l'acquisition de plusieurs livres pour les petits niveaux, pour les adultes. Ce qui n'est pas forcément à lire des histoires pour les enfants.
Et peut-être un mot sur les cours chez vous.
Le terme 3 va démarrer le 25 juillet et avec des classes, alors ce sont à peu près les classes que nos étudiants ont l'habitude de connaître. On a des classes débutantes qui commencent déjà à beaucoup se remplir. Ça peut être le moment justement de se mettre ou remettre à l'apprentissage du français. Beaucoup de personnes l'ont appris au collège, au lycée, et puis ont perdu un peu contact avec la langue. C'est une très belle façon de renouer un peu. Et puis, on a beaucoup d'étudiants aussi qui commencent à profiter de la réouverture des frontières et à voyager, et donc qui viennent à l'Alliance pour préparer leurs conditions linguistiques, je dirais.
Merci, Raphaël, de nous avoir éclairé un petit peu sur ce qui se passe chez vous.
Merci à vous, Jean-Noël, et je vous souhaite une excellente journée.
Et à très bientôt sur SBS French.
À très bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et un rappel des grands titres de ce dimanche 24 juillet, la politique de détention offshore de l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée génère toujours des coups après la fin de l'arrangement il y a 7 mois. Un Australien arrêté au Royaume-Uni dit qu'il est accusé d'une fausse alerte à la bombe envoyée à l'ambassade de Chine. Plus de 100 personnes sont décédées du Covid-19 hier pour seulement la journée de samedi en Australie. Et 56 minutes et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au/french. Je vous laisse en compagnie d'Élodie Sablier avec un extrait de Nocienne. Belle journée, à très bientôt.